C'est toujours un comté très, très baromètre.
Marie Montpetit.
J'espère que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant.
On fait quoi?
Patrick Derry.
Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an.
La rencontre Derry Montpetit.
Jour de sondage, c'est comme le Noël des analystes et des chroniqueurs politiques. Et aujourd'hui, ben on est gâtés, on a encore un sondage léger qui lui nous reprend avec les informations la performance des débats du débat de jeudi dernier à Radio-Canada. Et force est de constater que ça ne bouge pas beaucoup. Le premier ministre et la CAQ demeurent largement en tête. C'est à se demander, et je sais que Patrick se pose la question, pourquoi M. Legault est fâché?
Ben écoute, j'ai une hypothèse, hein, parce que tu sais, le sondage ressemble beaucoup à ce qu'on a eu au cours des derniers mois, puis même je dirais des dernières années. Tu sais, la CAQ autour de 40%, là autour de 37. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une victoire absolument écrasante. Là, sur Québec 125.com, l'agrégateur de Philippe Fournier ce matin, il donne 97 sièges à la CAQ. Là. Je veux dire, ça fait 50 ans qu'il n'y a pas une majorité comme ça. Monsieur Legault est tout le temps fâché. Pourquoi? Parce que, et on a vu dans les attaques, je parle pas juste de son humeur au débat, là, moi je parle de ses attaques très sévères contre Québec solidaire, contre le Parti conservateur qui a accusé là, d'être trumpiste. Mais c'est parce que il perd des petits points au profit de ces partis-là. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Il va se ramasser peut-être avec 37, 38 sièges, comme la dernière fois, ce qui avait quand même causé quelques remous, parce qu'on, tu sais, un tiers, un peu plus des votes avec une bonne majorité. Et là, il pourrait avoir 80 % des sièges avec même pas 40 % des votes. Fait que là, la légitimité va être remise en cause le lendemain, en fait, le soir même des élections. Monsieur Legault veut pas ça.
Ben, c'est une bonne raison pour être fâché, Marie?
Ben, je suis pas certaine que c'est ça qui explique sa mauvaise humeur depuis le début, parce que je pense pas que M. Legault s'est présenté en campagne électorale comme tous les gouvernements probablement précédents, tous les partis précédents, en se disant je vais aller rafler 50% du vote là. T'sais, c'est quand même utopique si un parti part avec cet objectif là. Moi j'ai plutôt l'impression, parce que tu sais, en bout de ligne là, oui, peut-être que sa légitimité va être questionnée comme ça a été le cas dans des gouvernements précédents aussi, mais une fois qu'on a dit ça, ça dure un temps, puis après ça t'imposes ton tempo comme gouvernement, puis on passe rapidement à autre chose. Moi, j'ai plutôt l'impression que depuis le début de la campagne électorale, il est en mode défensif. Là. On le voit sur l'immigration, sur le troisième lien. Il n'arrive pas à imposer ses thèmes de campagne. Il n'arrive pas à imposer l'économie, l'inflation, le coût de la vie. On l'a vu un petit peu plus dernièrement sur ses attaques, justement, sur la taxe orange. Mais j'ai l'impression que ce qui contrarie, c'est plutôt ça, là, de se faire... On l'a déjà dit, il aime pas beaucoup se faire remettre en question, se faire contester. Donc, c'est comme pas une... Je pense pas que c'est un grand fan de campagne électorale.
C'est pas un campaigner.
J'ai hâte au 4 octobre. Là.
C'est pas un campaigner.
J'ai pas cette impression.
Il y a de ces chefs de parti qui rayonnent en période électorale, qu'ils ont ça dans le sang, qu'ils vont à la guerre. On le voit dans leurs yeux, ça brille. Ça a l'air d'être une tâche pour M. Legault.
Oui, c'est sûr. Écoute, moi, c'est une boudade, le sondage. Évidemment, je suis d'accord avec Marie. Si M. Legault, il n'aime pas ça être contesté, point, de l'intérieur, de l'extérieur, de son parti, par personne, il n'aime pas ça. Mais ceci dit, pour ce qui est des attaques plus ciblées récemment sur les conservateurs et QS, moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi. Et je ne pense pas que ça va partir le lendemain de l'élection. Pourquoi? Parce que c'est une situation sans précédent. On a quatre partis qui sont autour de 15, 16, 17 %. C'est des appuis qui sont significatif, hein? C'est très fort, c'est des mouvements qui sont forts d'ailleurs, ça va être intéressant de voir le taux de participation au final, là. Mais il va y avoir pas mal de monde qui sont déçus et c'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Québec qu'on ait eu des gouvernements majoritaires avec 37-38% des voix, hein? C'est arrivé deux fois, une fois sous Maurice Duplessis, une fois sous Monsieur Legault qui a eu le record à 37%. Imaginez si on se ramasse avec 36-35%, il sera pas de meilleure humeur.
Sinon, il y a un sujet qui m'intrigue, là, puis vous allez devoir, Marie, tu vas devoir m'expliquer ça. C'est quoi le complot des crayons? On dirait que je suis pas au courant des complots. Les amis, tenez-moi au courant, c'est quoi les complots de l'heure, là? J'ai l'air complètement dépassée. La dernière fois, je vous ai demandé c'est quoi le Pizzagate. Là, aujourd'hui, je veux savoir c'est quoi le complot des crayons. Je me sens vraiment comme ma tante dépassée, là.
Écoute, le complot des crayons, puis ça va exactement, écoute, le lien il est super bon. Patrick vient de mentionner, il y a des gens qui vont être déçus au lendemain de l'élection, là, ben là, on pave la voie pour ça. Donc là, il y a des, tu sais, Yasmine, la loi électorale, elle est super claire. Tu dois voter, faire ton X, ta croix, avec un crayon à mine qui t'est fourni par le scrutateur quand tu vas au bureau de vote.
C'est comme les petits crayons IKEA, là.
Oui, on a vu hier ou avant-hier, je pense que c'était hier, on a vu Éric Duhaime sur Twitter appeler aux gens à dire, vous savez, c'est vraiment important, si vous voulez que votre vote compte, d'utiliser un crayon à mine tel que la loi électorale le prescrit. Parce que là, il y a plein de gens qui se sont mis à soulever des questionnements sur, et puis je lisais les commentaires, là, c'est pas un peu curieux que ce soit un crayon à mine, il me semble que ça s'efface. Et là, il y a des gens qui ont dit oh, « Moi, ça fait des années que je vote avec un crayon, justement, un stylo à l'encre à cause de ça. » Puis là, c'est « Ah, une chance qu'Éric Duhaime nous l'a dit, sinon mon vote n'aurait pas compté. » Et là, ce qui circule en ce moment, c'est « Ok, on va voter avec un crayon à mine, mais il faut appuyer vraiment fort pour que ça laisse une trace. » Donc, tu comprends que le message en dessous de ça, c'est qu'il y a des gens qui disent que les élections pourrait être truqué et qu'il y a des gens au lendemain de l'élection, si Éric Duhaime ne gagne pas dans sa circonscription et ne font pas l'opposition officielle, ce qui est une évidence à mon avis, vont être très déçus, mais vont peut-être appeler à la fraude électorale et en tout cas, ça promet pas des beaux lendemains d'élection.
Hey, on n'a pas joué dans ce film-là avec Trump, tu sais, il y a quelques
exactement,
temps.
Exactement.
Mais c'est ça, mais il y a beaucoup, de fans, là, la base de Duhaime, en tout cas, je dirais pas la base de Duhaime puis la base de Trump se recoupe parce que c'est différent, évidemment, mais je veux dire, au Québec, les admirateurs de Trump sont plus du côté des conservateurs. Mais écoute, moi, je veux juste dire là-dessus, pour ceux qui nous entendent en ondes, allez regarder en radio-visuel la face que Yasmine faisait pendant qu'on parlait des crayons, qui est en train complètement de sortir du cadre de découragement. Mais c'est ça l'affaire, c'est... Faut le dire, là, puis il n'y a pas de façon polie de le dire, puis à chaque fois, ça fâche, mais d'abord, il y a une grosse base qui est complotiste du Parti conservateur, puis une base qui comprend rien. T'sais, les messages d'insultes, plein de fautes, là, j'y reçois pas des partisans de la CAQ, du PQ, du PLQ, de QS, que j'y critique t'sais, souvent, régulièrement. J'y reçois des partisans conservateurs. Ils comprennent pas le système. Ils pensent qu'il y a des complots partout. Ils pensent que tout le monde sont des crosseurs. Puis écoute, le meilleur commentaire que j'ai vu d'un partisan conservateur qui disait « On peut-tu arrêter avec ça parce que là, on passe pour des épais? »
C'est ce qu'il y a de plus intelligent qui a été dit depuis qu'on a commencé à parler du complot des crayons. Ça, je vous l'accorde. Sinon, Patrick, aujourd'hui, ben, on dirait que tu te lâches là sur le premier ministre. Là, tu vas les complotistes, pas nécessairement les complotistes, disons plus de la CAQ, ceux qui pensent que tu devrais pas parler de François Legault. Puis t'as une dent contre François Legault. Je reçois ce genre de critiques moi aussi sur les réseaux sociaux. Là, tu veux nous parler des menteries du premier ministre, disons des demi-vérités,
ben oui,
là, pour les flatter dans le bon sens du poil.
Ben non, mais c'est sur le terme, justement, menterie. Pourquoi? Parce que M. Legault, il a dit qu'il n'y avait pas d'études sur le troisième lien, puis c'est pour ça qu'on ne l'a pas. Et là, qu'est-ce qu'on a appris de Radio-Canada aujourd'hui? C'est que il y en a une étude sur un tunnel de centre-ville à centre-ville qui a été rendu, dans les mains du gouvernement depuis un an et demi. Et c'est pas la première fois que M. Legault, tu sais, il en passe une petite vite comme ça. Quand j'avais sorti les paliers de couleurs pendant la pandémie, on voulait savoir c'était quoi. Bon, j'ai été capable d'avoir le document, je l'ai publié. Monsieur Legault était questionné là-dessus en point de presse. Il dit « Ah, ça, c'est un vieux document. » C'était pas un vieux document, ça avait été présenté 2 jours avant la Fédération des spécialistes. Puis tu sais, il a dit qu'il rendrait toutes les études, les conseils de la santé publique, ainsi de suite. On pourrait parler aussi de sa promesse solennelle de réformer le mode de scrutin. Fait que Monsieur Legault, il fait ça des fois. Il fait des menteries, mais il y a une espèce de tabou à dire c'est quoi. Puis même les autres chefs de parti disent les cachotteries, le manque de transparence. Il y a juste M. Duhaime qui a dit ce que c'était. Il a dit, M. Legault a menti.
Mais pourquoi, moi, la raison que je me posais, Marie, pourquoi Gabriel Nadeau-Dubois, Dominique Anglade, Paul Saint-Pierre, Plamondon n'embarquent pas dans la demande de rendre publiques ces études-là? Pourquoi ils ne n'embarquent pas avec Éric Duhaime, puis finalement, ils le laissent un peu se ridiculiser tout seul, comme si ce qu'il demandait était loufoque, or que c'est tout à fait justifiable que de demander la publication des études déjà qu'on a sur la main?
Ça a été demandé, je te dirais qu'on a passé, je pense, la dernière année ou presque les 2 dernières années à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition ont demandé justement que les études soient rendues publiques. Là, tu sais, c'est tellement kafkaïen, ce dossier-là. C'est comme le pot d'or en bas de l'arc-en-ciel, là. Tout le monde le cherche. On sait tu s'il existe, s'il existe pas. Si... Puis là, on parle, tu sais, il y a tout le temps une étude. C'est pas la première fois, là, qu'il y a une étude. Finalement, il y en a une. Finalement, on en a trouvé une. On parle d'études de 50 millions, là. Je dis, c'est énorme en termes de coûts publics, d'argent public qui est investi là-dedans. Mais on publiera pas les données pour des raisons qui sont très obscures, à mon avis aussi. Ça, c'est sûr que c'est rien pour, tu sais, ça alimente le cynisme, c'est au niveau de la transparence, c'est vraiment pas très bon non plus. Mais à suivre, c'est les autres parties. Mais tu sais, je veux dire, ça a été demandé, redemandé, redemandé. Mm-hmm. Mais je pense que François Legault, il se tire dans le pied avec ce dossier-là à journée longue. Là.
Je l'avais déjà dit sur les ondes de Cube, je le redis, le journaliste qui réussit à mettre la main sur cette étude-là, je lui paye le souper de sa vie au Toquet. Personnellement, c'est moi qui prends la facture. Faites juste mettre la main sur cette étude-là. Elle commence, tu sais, c'est comme quand on est jeune puis que nos parents nous disent ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Qu'est-ce que t'as dans la tête puis que tu veux trouver puis que tu veux essayer? Ce que tes parents disent que c'est interdit. Moi, c'est avec l'étude du troisième lien. Passons avec, j'ai une question quiz pour vous. Marie, demain matin, il y a un référendum. Penses-tu que François Legault vote pour ou contre la souveraineté du Québec?
Ben, pour citer quelqu'un de bien connu, pour ou contre ou son contraire, je pense que c'était ça l'expression de sa maman.
C'est ni pour, ni contre, bien au contraire.
Ni contre, bien au contraire, c'est ça. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Écoute, ça sonnait pas mal comme ça, là, ce que M. Legault a dit ce matin, tu sais, quand il dit... un référendum, ce serait viable, mais il y aurait un défi financier et les Québécois sont pas intéressés. Il y avait quand même pas
mais
mal
il dit
de,
jamais
de,
ce que
de,
lui
de...
pense. J'ai l'impression que les réponses de François Legault sur la question référendaire s'apparentent à la question référendaire du premier référendum, là. Tu sais, c'est incompréhensible.
Il souffle sur le chaud et le froid, là. Il souffle sur le chaud et le froid, tu sais. Puis là, c'est pourquoi il dit cela dans tel contexte en plus de ça. C'est un fédéraliste, mais c'est un nationaliste. Donc, on veut pas déplaire à personne, là, avec cette réponse-là.
Il y a une réponse qui est très correcte, qui est celle que plusieurs Québécois pourraient donner. Là, c'est mon cas aussi, tu sais. Ben, j'ai déjà pensé que c'est une bonne idée en contexte en 1995, mais en 2022, je voterai pas de la même façon. Voici pourquoi. Et ça serait trop long pour une chronique, mais sur la viabilité financière, tu sais, la bonne réponse de M. Legault, il l'a dit, là, ça coûterait très cher. Il a parlé de 10 milliards, je sais pas s'il y a des nouveaux chiffres, mais la différence entre l'impôt qu'on envoie à Ottawa puis ce qu'on reçoit là, en financement, puis c'est la péréquation des transferts puis tout le reste, avant la pandémie, là, ça se promenait autour de 15-16 milliards, puis c'était 19 milliards la dernière année d'avant. Fait que c'est l'équivalent à peu près là, du ministère de l'Éducation puis de l'Enseignement supérieur ensemble. Fait que ça, c'est ce qui nous manque, parce que le Québec est une province plutôt pauvre. Il y a 20 ans, au budget de l'an 1, M. Legault, c'était proche du point d'équilibre, on est rendu ailleurs. Puis là, on compte même pas le poids de la dette qu'il faudrait rejeter puis les intérêts. Fait que présentement, c'est malheureux. C'est absolument épouvantable. Je sais que Jean-François Lisée, Simantin, va dire que ça ne sera pas d'accord. Puis si on partage ce lien-là, je vais manger une volée de tous les députés du Bloc. Mais là, pour l'instant, on s'est un petit peu enlevé les moyens de le faire. C'est ça la réalité, c'est plat.
Mais demain matin, il y a un référendum. Moi, ce que j'ai envie de savoir, comme j'ai envie de le savoir pour Patrick, là, parce que ta réponse, elle s'apparente un peu à François Legault. Là. On ne sait pas si tu voterais oui ou non.
Je vote non demain matin.
OK, si là, c'est clair.
Un chapitre là-dessus, il y a plein de raisons pour ça, mais là, on parle de la viabilité financière. Mais après ça, est-ce que...
Peu importe les raisons.
Pour répondre à ta question de base, est-ce que François Legault voterait oui ou non? Encore faut-il que je dise premier ministre si c'est lui qui va le déclencher, ce référendum-là. T'sais, donc, je prends pour acquis que s'il le fait, c'est quelque part où il y est favorable. Mais c'est pas ce que... Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une tendance de... Tu sais, on a toujours dit qu'il est assez populiste là dans son approche. Là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une tendance de fond... très, très, très forte et une demande très, très forte de la population en ce sens-là. Ce qui en soi est raisonnable comme approche d'un premier ministre aussi. Là.
Oui, absolument. C'est sûr que dans les conditions actuelles, ça ferait éclater la CAQ. T'sais, c'est aussi simple que ça. Mais
c'est peut-être pas la viabilité du Québec qui serait en jeu, mais la viabilité de la CAQ comme parti politique qui serait en jeu au cas où il y a une souveraineté.
Ouais.
Marie, Patrick, toujours un plaisir. On se parle demain.
À demain, bonne journée.